Prisme, l'émission d'architecture qui fait société sur Bâti Radio.
On entend beaucoup d'émissions parler de sujets de société, très peu parler d'architecture, et pour cause. Aujourd'hui, nous vous proposons de parler de la société par le prisme de l'architecture, d'où le nom de cette nouvelle série, Prisme. Un prisme ? Une forme géométrique pure, simple, belle comme de l'architecture, mais aussi une optique qui permet la réfraction, la diffraction, la réflexion. Tout ce qui génère du bâti est directement en lien avec notre société. Les premières cités mésopotamiennes, les villes médiévales, l'urbanisme soviétique ou américain, et aujourd'hui les entrées de ville, les grands projets, les ZAC, les métropoles. Alors quelle est donc cette nouvelle émission ? C'est la question que je vais poser à notre équipe. Dominique Boré, président d'honneur de la Maison de l'Architecture d'Île-de-France, David Trottin, architecte, Guillaume Loiseau, directeur de la division bâtiments et construction chez RX France, et moi-même, Olivier Leclerc, architecte. Bonjour Guillaume Loiseau.
Bonjour.
Bonjour David Trottin.
Bonjour.
Bonjour Dominique Boré.
Bonjour.
Alors, ma première question s'adresse à vous Dominique. Vous êtes le point de départ de cette nouvelle émission. Quelle était un peu l'idée qui a fait naître cette envie de parler d'architecture à la radio ?
Alors plus que l'idée, en fait, c'est un sentiment, celui d'être orpheline d'une émission dont tout le monde se souvient, qui était Actes et Cités sur Radio Libertaire, animée par vous-même,
voilà,
Olivier.
Il y a quelques années maintenant.
Voilà, mais bon. En tout cas, nous étions avec quelques amis et nous souvenions de cette émission qui avait quand même marqué les esprits et on regrettait qu'il n'y en ait pas. Voilà, bon, c'était un regret, un constat. Et puis un jour, j'ai eu la chance de croiser Guillaume Loiseau à la sortie d'une émission et d'un débat sur la construction hors site à Bâti Radio. Et nous avons devisé sur le sujet et il m'a proposé de faire un projet. Je vous ai, vous, David, et vous, Olivier, contacté parce que, alors, pour le coup, je ne suis pas du tout une spécialiste de la radio. Et j'ai rencontré de l'enthousiasme de part et d'autre et de l'enthousiasme de la part de Guillaume quand nous lui avons proposé ce projet qui nous a dit banco et nous sommes là aujourd'hui.
Alors Guillaume Loiseau, vous êtes un peu le chef d'orchestre de cette radio. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Bâti Radio ?
Alors chef d'orchestre, c'est très sympathique. J'essaie surtout d'aider, d'accompagner les équipes et d'impulser des nouvelles choses. Bâti Radio, en fait, a été créé en juillet 2018 avec une idée simple qui était de créer ce qu'on appelle un média 100% digital. À ce moment-là, les podcasts étaient vraiment très nouveaux, en tout cas en France, et surtout dans la sphère B2B. Et donc, cette envie, c'était à travers ce média, donner de la voix, donner la parole et donner la place à l'ensemble de la communauté des professionnels du bâtiment et de l'architecture, et de faire une radio pour cette communauté. Voilà, donc les auditeurs savent certainement que je m'occupe de Bâtimat, mais ça s'appelle pas Radio Bâtimat et c'est pas un hasard. C'est vraiment la radio pour la communauté, donc elle est faite pour vous et pour tous nos auditeurs.
Alors parler d'architecture, quel est un peu la motivation de parler d'architecture sur Bâti Radio ?
Il y a autant du besoin que de l'envie dans cette idée-là. Il y avait un besoin effectivement, comme Dominique Boré vient de le rappeler. Et puis à titre personnel, et je suis assez convaincu qu'on, souvent pour construire des nouvelles choses, il faut y mettre un peu de soi. C'est-à-dire avoir une petite voix intérieure, une envie qui vous pousse à faire ces choses-là, parce qu'elles sont rarement simples à engager. Et donc moi j'avais très envie à titre personnel, et en une fraction de seconde, les envies se sont croisées et ralliées à cette même idée avec Dominique, de créer ce format, cette émission, qui vous redonne une place à vous, architectes, et pour l'ensemble des auditeurs qui seront pas seulement d'ailleurs des architectes, pour positionner ce sujet qu'il mérite grandement au cœur des grands enjeux sociétaux. Voilà, et si j'étais pas convaincu à titre personnel de ça, peut-être qu'on n'aurait pas fait cette émission, ou peut-être pas tout de suite. En tout cas, j'avais cette envie de créer cet objet, on aurait pu faire autre chose. Et voilà, donc c'est parti de là, et je pense que dans ces temps... inédit, avec un agenda politique à venir, etc. Nos sujets doivent être à la bonne place. Donc si on peut le faire avec beaucoup d'autres, ben, c'est notre contribution.
Et le public visé un peu par cette émission ?
L'ensemble de la communauté du bâtiment, de la construction et de la ville. Voilà, c'est-à-dire tous ceux qui font la façon de vivre, d'habiter, que ce soit usage résidentiel ou non résidentiel de demain, c'est au premier plan et au centre vous-même, les architectes, mais l'ensemble des autres acteurs, que ce soit les industriels, les opérateurs d'énergie, les aménageurs, etc. Pour moi, l'architecture, alors c'est délicat d'en parler, parce que je ne suis pas architecte, donc pas forcément légitime pour en parler. En tout cas, ma vision candide de la chose, c'est que l'architecture, ça devrait être un bien commun et quelque part un bout de tous ces catégories de professionnels. Voilà.
Alors, David Trottin, on disait en début de cette émission que c'est regarder la société par le prisme de l'architecture. Qu'est-ce qui intéresse un architecte que vous êtes de parler de société à travers l'architecture ?
Mais pour rebondir sur ce que disait Guillaume, je pense que l'architecture est un élément central de tout ce qu'on vient de dire sur la fabrication de la ville, de notre environnement, du coup du politique qui se lie à ça, des nouveaux enjeux, qu'ils soient environnementaux, sociétaux. On vit dans un univers construit, bâti, pensé. Donc, et les architectes sont encore pour l'instant une sorte de pièce irremplaçable, qu'on voudrait des fois bien remplacer, mais qui est là parce qu'elle a une vision, on va dire, assez transverse de tous ces sujets. Et qu'elle peut amener une certaine cohérence, une certaine vision, qui n'est pas uniquement fonctionnaliste, qui est des fois plus poétique, plus sociétale dans ces enjeux-là. Et je pense que la question de partager ces éléments-là, moi, pour moi, est consubstantielle de mon métier d'architecte. Autant j'aime, ou je pense qu'il est nécessaire qu'on s'engage dans les projets, qu'on les fasse en tant que technicien, qu'entrepreneur de ces projets. Et en même temps, je pense qu'il faut avoir ouvrir des débats de réflexion. Moi, ça fait 25 ans que je suis partenaire de ces options à la Maison de l'Architecture, dans d'autres cadres aussi. Et je pense que c'est vraiment là où on peut ouvrir un débat et amener les gens à penser autour.
Et alors justement, parler de la société, est-ce que c'est nécessaire pour un architecte, mais aussi pour les auditeurs? Parce que sur Bâti Radio, on peut se dire, oui, ben finalement, nous, ce qu'on veut, c'est parler de matériaux, parler de construction, parler de marché. Parler de société dans une radio telle que Bâti Radio, est-ce que ça fait sens?
Tous les produits, les services, la construction, ce que vous venez d'aborder, qu'on retrouve classiquement sur un salon, et ça s'appelle des stands d'exposants, ça a bien un usage et une finalité. Et donc cet usage, c'est celui d'habiter ou d'utiliser un espace pour un usage professionnel. Et la finalité de tout ça, c'est que ces sujets de sociétaux, je pense qu'avec d'autres grandes thématiques, c'est probablement un des sujets qui va concerner le plus chacun de nous tous, toute la société sur les 10 prochaines années. Comment on va habiter et appréhender tous les grands défis que vous aborderez au long de toutes les émissions. Je ne vais pas commencer à les énumérer. C'est quelque chose qui concerne énormément les gens. Pour moi, c'est au même rang que l'alimentation, la pauvreté, l'éducation et la sécurité. Voilà. Ces grands sujets, en fait, concernent les gens, au sens propre et fort du mot « concerné ».
De toute façon, on a prévu d'inviter des acteurs assez variés du domaine de la construction, du bâtiment. Dominique Bourret, vous avez fait le tour des personnes à inviter. Quel serait leur profil ?
Alors, je pense que là, pour le coup, tous les profils. Hein. Des philosophes, des architectes, bien évidemment, mais aussi des philosophes, des géographes, des enseignants, des chercheurs. La recherche est un sujet qui me passionne, car de visite d'agences d'architecture, je me suis rendu compte que les architectes faisaient beaucoup de recherches de matériaux, de systèmes constructifs, mais que ça restait dans leurs agences. Et que personne aujourd'hui, au niveau des instances nationales, quelles qu'elles soient, professionnelles ou étatiques, n'ont mis en place une banque de données qui pourrait regrouper l'ensemble de la recherche des architectes et puis la mettre à disposition donc des chercheurs, des enseignants, je l'ai dit, mais aussi des maîtres d'ouvrage, publics et privés. Parce que la maîtrise d'ouvrage public est aussi importante en nombre et en donneur d'ordre que la maîtrise d'ouvrage privé. Des assureurs, Quand on parle de la construction hors site, on parle forcément d'assurance aussi, des avocats, des huissiers, des notaires, enfin tous ceux qui font, des industriels, j'allais les oublier, sotte que je suis, des industriels, tous ceux qui font qui font l'habitat, l'habitat, la ville, l'espace public. Donc ça va être assez large. Et puis des journalistes.
Et des politiques.
Et des politiques, bien évidemment. Alors, est-ce, pour question, nous, est-ce qu'on va inviter des politiques pendant toute cette année où on ne va parler que de politique, où on va les inviter, mais pour parler d'autre chose que de politique ? Ce sera au rédacteur en chef, Olivier Leclerc, de décider.
Ce sera la politique avec un grand P, hein, bien entendu, dans le sens étymologique du terme politis. David Trottin, vous vouliez rajouter quelque chose sur cette dimension politique, un peu de l'architecture dans le sens propre du terme.
C'est le fait d'agir dans la ville, d'agir pour le bien commun, quelque part ça recoupe cette notion de politis, et c'est clair que on s'aperçoit, et l'histoire de l'architecture l'a prouvé, que on peut faire bouger des choses. Tout le monde a en tête les grands projets de reconstruction qui sont des projets à la fois où il y a besoin de talent d'architecte, en même temps d'une volonté derrière qui la pousse, et je pense qu'aujourd'hui on est dans un univers où on est en plein changement. C'est la pensée, enfin pour nos générations, en 15 ans de temps, on est passé de changer complètement de paradigme sur les besoins de la construction, ses finalités, et je pense que c'est des besoins qui s'expriment. Nous, on est un peu en avance par rapport à ces perceptions. Il faut aussi les retransmettre aux politiques pour que ça devienne des actions. Et voilà, je pense que cette itération entre la technique, l'architecture et le politique sont vraiment des sujets très très intéressants, et où il n'y a pas forcément toujours assez d'itérations ou d'échanges ou de porosité à mettre en place dans le bon sens du terme pour pouvoir trouver des solutions.
Il y aura des polémiques, hein, on va aborder des sujets un peu à débat. Il y aura aussi des sujets qui ne sont pas forcément polémiques, mais qui nécessitent un approfondissement, qui nécessitent plusieurs avis, plusieurs angles de vue. Et c'est un peu ça aussi qu'on va essayer d'explorer. On n'a pas peur du débat, hein, comme vous disiez, Dominique. Effectivement, le débat, c'est quelque chose qui sera au centre de notre projet. Guillaume Moiseau, est-ce que on a une liberté totale d'expression?
Moi, je vais prendre une expression simple. Je vous ai donné les clés du camion. Et pour le coup, l'antenne. Et c'est un choix que j'ai fait aussi. Donc, on n'est pas là pour faire le déballage de certains produits, certains sujets préfabriqués, etc. C'est votre émission. Vous en avez choisi tout l'angle éditorial, jusqu'au nom, au logo, la signature, comme quand on fabrique un produit classiquement, voilà, avec une approche marketing et communication dès le départ. Et donc c'est votre produit. Je vous remercie de m'avoir invité ici pour cette première, et voilà, mais après je vais rapidement disparaître pour les suivantes, parce que c'est votre émission, et place à tous les invités dans les nombreux métiers que Dominique Boré vient d'évoquer. Donc je serai parmi tous les auditeurs, parce que le sujet m'intéresse beaucoup. Je vous accompagnerai évidemment tout au long de l'année, à chaque fois qu'on réfléchira et qu'on voudra se poser des questions pour orienter la suite. Mais cette émission est à vous.
Merci. Merci beaucoup de nous laisser cet espace de parole qui est très appréciable, surtout dans cette profession. Alors avant de parler d'un peu des sujets qu'on va aborder pendant cette première année, en tout cas déjà, je vais faire un petit description de l'émission. C'est une émission qui va durer petite heure, hein, à peu près, enfin une heure même. On va d'abord présenter un peu les invités, rentrer dans le débat. Et elle sera ensuite marquée par une chronique qui sera donc animée par David Trottin. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer cette chronique ?
Alors là, vous commencez directement par la chronique, alors qu'en fait, y a, avant, la chronique va s'appuyer aussi sur tout le corpus des échanges qui se seront mis en place précédemment. Et moi, l'angle de la chronique que je voulais animer, c'était sur Donc l'émission s'appelle Prisme. Je me suis dit la chronique pourrait s'appeler Un autre prisme, qui est une manière de relancer dans notre échange le débat sur les sujets qu'on va aborder, qui seront des sujets assez structurés, sur lesquels il y a effectivement pas mal de choses à dire, et d'essayer de l'ouvrir sur autre chose. Moi j'aime bien les visions périphériques des choses. C'est-à-dire périphérique, ça veut dire qu'il y a une centralité, il y a un intérieur et il y a un extérieur. Et donc on peut s'intéresser à un sujet en focalisant dessus, tout en essayant de le relier aussi à ce qui est autour. Et cette idée d'ouvrir, de regarder différemment, elle peut permettre de ramener d'autres champs. On peut parler du politique dans le premier sujet, mais aussi d'ouvrir peut-être, je sais pas moi, sur une vision plus poétique, plus sur le cinéma, des arts qui viennent se greffer dessus, d'autres formes d'expression. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un métier qui change énormément, où la manière d'aborder la question de la maîtrise d'œuvre a changé. C'est plus forcément le duo idéal d'un architecte et d'un maître d'œuvre. Les formes sont beaucoup plus fluides, on va dire, entre les genres, entre les manières de faire. Et donc voilà, j'aimerais que cette chronique puisse évoluer au fil des émissions. Mais je suis pas un professionnel de la radio, donc je veux aussi me former au sujet de chronique en chronique. Mais cette idée d'avoir une ouverture, un contre-champ qui permettra de relancer dans la deuxième partie de l'émission la table ronde, le sujet qui aurait été mis principalement en place.
Oui, c'est un rebond, voilà, un rebond. Redonner une nouvelle énergie, un peu d'oxygène dans ce débat. On a aussi prévu d'inviter régulièrement un journaliste ou une personnalité du débat de l'architecture à parler, une sorte de carte blanche. Alors on a déjà un peu approché certaines personnes, donc des gens de Polygone, des gens de Radio BAM, hein, une radio d'étudiants en architecture. Il y a Christine Desmoulins, Isabelle Régnier du Monde, Sylvain Grisot, Dixit.net, et c'est ouvert à plein de gens. On voudrait l'ouvrir à des voix émergentes, à des gens qui n'ont pas forcément une parole bien établie dans le débat sur l'architecture. Et ça, c'est quelque chose qui reste ouvert. Donc c'est une invitation à venir participer à cette émission. Donc j'en profite pour faire un peu un appel à qui veut bien venir y participer.
C'est aussi une gourmandise pour nous autres d'inviter d'autres voix émergentes sur la question de l'architecture. Où il y a quand même pas pléthore. Le cinéma, vous prenez le cinéma, le nombre de gens, de chroniqueurs, de gens qui parlent du cinéma est énorme. Dans l'art, il y a beaucoup de sujets qui font vraiment, comment dire, qui ramènent de la pensée. En architecture, on est un peu victime d'une pensée qui a du mal à s'exprimer. Donc quand il y a des gens qui écrivent sur ces sujets-là, qui pensent à la formalisation de l'architecture et de la société, voilà, on a envie de les écouter, de les entendre et d'avoir leur expertise.
Et enfin, en dernière partie, en fin d'émission, Dominique Boré, vous nous tiendrez l'agenda, les événements à voir, à ne pas rater, dans toute la France.
Le prisme de l'agenda.
Voilà.
Oui, dans toute la France. Alors, ce sera effectivement un agenda tout à fait non exhaustif, hein, nous sommes bien d'accord. Ce seront un agenda qui exprimera des coups de cœur, d'expositions à Paris, en banlieue, et effectivement dans toute la France, des expositions, des rencontres, des débats, des balades urbaines, tout ce qui fait aujourd'hui les événements de la vie architecturale et urbaine.
Très bien, ça va être aussi passionnant, et je pense que beaucoup de gens ne vont pas louper cette partie de l'émission qui sera un peu un rendez-vous qui inscrira cette émission dans le temps, dans l'actualité. Alors cette deuxième partie d'émission nous permet d'aborder certains sujets dont nous allons parler. Donc il y aura la prochaine émission, ça sera une émission sur le logement qui sera intitulée « Logement public, logement privé, logement périmé ». Déjà on voit que c'est... Donc l'étalement urbain est l'une des plus grandes causes de dérèglement climatique et pourtant... Immeubles collectifs sont boudés par la population alors qu'ils sont les clés de la ville dense. Donc la crise sanitaire a d'ailleurs révélé la qualité de nos logements, souvent plutôt mauvaise qualité. Pour lutter contre la tentation du périurbain et des quartiers pavillonnaires, l'État a commandé un rapport, qui a été réalisé par Girometti et François Leclerc, Laurent Girometti et François Leclerc, hein, donc un manager et un architecte, pour un peu faire le diagnostic de la qualité des logements et de nous apporter quelques clés pour les réussir. Alors ça touche tout le monde, effectivement, ça touche les logements de manière générale. On va aussi inviter une personne qui vient de la promotion immobilière qui sont pas forcément d'accord avec ce regard-là. Parce que ça rapporte un peu trop de règles, une nouvelle règle à la règle, un nouveau référentiel, une nouvelle contrainte, et ça peut aussi perturber la création du logement, surtout que selon beaucoup de gens de la profession immobilière, le problème n'est pas dans la qualité, le problème c'est le foncier, le problème c'est le prix de sortie, le problème c'est d'être contraint par toutes ces données-là. Donc ça peut être un débat intéressant. David, est-ce que ce débat vous inspire ?
Tout à fait. On est ici au cœur du thème de l'émission. On voudrait des sujets un sujet de société et de l'architecture. Le logement, on peut pas faire mieux. C'est ce qui est à la fois la matière première de la ville, le vivre ensemble, toutes les questions qui aujourd'hui souvent apparaissent dans les questions politiques sont liées à comment on habite, comment on vit ensemble. Et donc, ces questions-là, bien sûr, le logement a une part importante dedans. Faut pas penser que c'est là, pour le coup, que les architectes sont les seules clés de la problématique. Vous l'avez très bien dit, il y a les questions du foncier, les questions de l'aménagement urbain, c'est des questions centrales à ça. Mais quand même, aujourd'hui, on peut se poser des questions. Nous, on a une vision un peu souvent en avance de ces sujets-là, et on s'aperçoit qu'elles mettent du temps à infuser dans les projets. Les questions... on va dire banalement de l'espace en plus dans le logement non dédié à une fonction particulière qui ont permis dans le cas des confinements de respirer ou d'être à plusieurs dans un logement, ça fait on va dire des années, c'est presque une sorte de lieu commun chez les architectes de vouloir l'imposer dans les logements. Aujourd'hui on trouve une écoute beaucoup plus favorable parce qu'on s'est aperçu que nos marottes quelque part, elles ont une réalité, elles ont un besoin, elles peuvent s'exprimer. Je pense que c'est sur ces sujets là on peut en partager beaucoup et ça sera effectivement assez intéressant de rentrer dans un débat.
Il faudrait qu'on invite d'ailleurs Nicolas Michelin sur ce sujet-là. J'ai lu une tribune qu'il a faite sur LinkedIn, je crois, hier ou avant-hier, sur les études capacitaires qu'il faudrait remplacer par des études volumétriques. Alors, j'ai trouvé ça très intéressant. Du coup, j'ai liké et tweeté, enfin, etc. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Bon, moi, j'ai beaucoup travaillé dans la maîtrise d'ouvrage, donc je sais ce que c'est qu'un... Je sais ce que c'est qu'une étude capacitaire, je sais ce que c'est qu'un bilan, financier à la sortie, et puis ses contraintes. Et puis, je sais aussi qu'on a quand même détruit à une époque des... Alors, on le fait moins, bien sûr, mais des trois pièces à 72 mètres carrés pour en construire à 57 mètres carrés. Alors qu'on sait très bien que l'espace est quand même le luxe. C'est le luxe, c'est quand même l'espace. Et vivre dans un appartement où il y a un peu d'espace, ça change quand même tout. Ce que d'ailleurs dit le rapport Leclerc-Gérometti.
Alors, ce qu'il ne dit pas trop, par contre, c'est parler de réversibilité, de flexibilité, de tous ces sujets-là qui sont quand même important.
Parce qu'on en parle plus pour le logement, pour le bureau.
Oui.
Effectivement, a priori, c'est vrai que je réfléchissais à ça. Un logement, on n'imagine pas qu'on puisse le transformer en bureau. Il y a que le haussmannien qui a fait ça, Hardy Petit, dans le 8e arrondissement, entre autres. Mais c'est vrai que pour le logement, on ne parle pas de réversibilité parce qu'on n'imagine pas de pouvoir le transformer en bureau, alors que l'inverse, c'est vrai.
Mais c'est un tort. Dans les thèmes comme ça qui reviennent et qui sont, si ce n'est les marottes d'architectes, en tout cas des axes sur lesquels on peut penser le logement. Le logement, est-ce que c'est une seule... Est-ce que c'est des pièces affectées avec ces fameuses listes de T3, de normes comme ça, où on a une surface, une pièce, une fonction? On voit bien quand Sophie Delay, l'année dernière, produit des logements où il y a une recherche de banalisation de la pièce pour qu'elle puisse avoir plusieurs fonctions, que ça devient... C'est une pensée que beaucoup d'architectes ont, mais qui tout d'un coup devient un événement quasiment dans le monde du logement. Cette idée de la continuité des pièces, de simplement jouer sur est-ce qu'un logement, c'est un seul lot au niveau de la copropriété ou c'est deux lots, par exemple, ça changerait tout dans l'évolution du logement. On peut le scinder, on peut le revendre, on peut le relouer. Il y a plein de pensées à avoir sur ces sujets-là qui peuvent être des nouveautés. Et la réversibilité, moi je pense que ça s'inscrit dans la réversibilité. Quelque part, un logement définitif pour la vie, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment de sens aujourd'hui. Le parcours résidentiel évolue, les familles changent, les besoins changent, et il faut que l'objet logement puisse s'adapter à ça.
Puis c'est vrai qu'on a fait des logements un peu sur un modèle familial dépassé, hein, un peu des années 50, papa, maman, deux enfants, et aujourd'hui il y a des familles monoparentales, des familles recomposées, des gens qui travaillent à la maison, des créateurs d'entreprise,
et ce n'est pas pour la vie. Cette espèce de vision où une situation doit perdurer ad vitam aeternam, aujourd'hui on voit bien qu'elle est totalement remise en question. C'est des séquences, c'est des moments, c'est voilà. Donc, ce qui marche pour la famille marche aussi, donc du coup, pour l'endroit où la famille vit.
Alors ça sera la prochaine émission. On va aussi parler de réversibilité. À un moment donné, on va aborder ce sujet. Ça, c'est très important. Un autre sujet, alors je vous cite un peu, c'est dans le désordre, hein, c'est pas forcément le planning de l'année. On va rester d'ailleurs collé à l'actualité en essayant de s'adapter un peu aux différents sujets qui arrivent au fur et à mesure. Mais il y a un sujet qui est intéressant, dont on voulait parler, c'est l'urbanisme transitoire. Hein, faire de la ville l'espace d'un instant. Donc un peu partout en France, on voit des friches qui sont aménagées, récupérées. Ce sont des initiatives qui sont souvent qualifiées par certains d'armes de bobification. Ces tiers-lieux, cette expérience d'urbanisme transitoire, c'est surtout des occasions pour mettre en œuvre des expérimentations sociales, écologiques, créer du lien, favoriser l'inclusion. C'est des modèles économiques un peu variés, hein. Ça va du bénévolat, voire même des acteurs un peu exploités, à un véritable événementiel professionnel. Donc on voit beaucoup de sociétés dérivées des divans du monde s'occupent, s'approprient ces lieux-là pour en faire des espaces extrêmement lucratifs. Donc c'est un profil un peu complet. C'est une démarche intéressante. La question, c'est est-ce que nous sommes en présence d'une nouvelle manière quasiment incontournable de fabriquer la ville.
Tout lieu d'expérience, je pense, c'est intéressant. Il y a autant à la fois de risques d'un côté que de bénéfices. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, même si ça fait plus d'une dizaine d'années que les choses se mettent en place, que tout ce que vous avez dit est tout à fait ce qu'on peut analyser dans une première approche, je trouve qu'en tout cas, on est dans une culture de la construction au sens large qui s'est de plus en plus normalisée, réglementée, cadrée, où aujourd'hui la liberté de tous les acteurs, elle est réduite de plus en plus. Et enfin, la réaction que vous disiez sur le fait que ce nouveau rapport pouvait pour les promoteurs devenir encore une norme en plus, une contrainte en plus, aujourd'hui on le vit à chaque instant, on a l'impression qu'un problème égale une nouvelle règle. Aujourd'hui des expériences comme ces tiers-lieux, ces urbanismes transitoires, c'est des moments d'invention. On ne sait pas où ça va. Ça peut aller dans le mal, ça peut aller dans le bien, mais en tout cas, c'est un laboratoire qui méritera après. C'est intéressant d'avoir des chercheurs ou des analystes, des enseignants sur ces questions-là, de savoir quels bénéfices on peut en tirer et quelle analyse on peut en faire. Il y aura certainement beaucoup de choses négatives et imaginer simplement la survie de systèmes comme ça par des pompes à bière, on peut voir la limite que ça peut avoir. Mais en même temps, voilà, il y a des choses de nouvelles.
Alors, il y a différents sujets encore qu'on pourra aborder, dont un sujet assez d'actualité, c'est la ville accueillante, architecture militante. Aujourd'hui, on a bien vu que la France, l'Angleterre, enfin toute l'Europe est marquée par cette arrivée massive de migrants que les villes ont du mal à gérer. Les événements récents en Afghanistan ne font pas annoncer que des choses autres. Hein. Ça va s'accentuer, ça va s'augmenter. À ceci s'ajoute aussi l'immigration liée aux catastrophes écologiques, mais aussi catastrophes économiques, hein, puisqu'il y a des zones sinistrées qui poussent les gens à sortir, à partir. Alors on a toujours tendance à dire, mais attendez, pourquoi ils partent ? Il n'y a pas de guerre, mais souvent c'est juste quitter un pays dans le but de rechercher un monde meilleur, une vie, un futur. Donc on n'y peut rien. On a beau fermer les frontières. On devra réfléchir sur la ville accueillante. Alors maintenant, comment, de quelle manière, c'est un peu ça le sujet. Est-ce que la crise ne deviendrait pas permanente finalement ?
Elle va être permanente de toute manière. Enfin, de toute façon, elle est déjà permanente. Elle est déjà permanente. Elle est déjà là, que ce soit la guerre. Que ce soit l'aspiration à une autre vie, à une vie meilleure, et que je sache, on ne pourra jamais empêcher les gens d'aspirer à une vie meilleure. Je ne vois pas pourquoi on leur interdirait, alors que nous, on court derrière cette idée-là depuis toujours. Donc, elle est permanente. Le problème, c'est que ce que je souhaiterais, c'est qu'on y réfléchisse, effectivement, et qu'on en débatte. Mais en sortant en essayant de ne pas redonner, en essayant de ne pas être robinet d'eau tiède, c'est-à-dire ni dans la charité, ni dans le refus total.
Non, enfin, on n'a pas forcément invité Eric Zemmour pour parler de ça.
Voilà, non, ça c'est clair. Ça c'est clair, oui, effectivement. Mais qu'on réfléchisse, effectivement, et je pense que les architectes ont une parole et ont une pensée et réfléchissent à ça. Ça ne sort pas, pour l'instant, ce n'est pas encore très... très populaire, enfin en tout cas très diffusé, mais je pense que ce sera une de nos missions d'y réfléchir.
Guillaume Lozeau, vous avez un peu un avis, vous qui n'êtes pas vraiment dans le milieu de l'architecture, qu'on s'intéresse à ces sujets-là?
Je vous écoute très attentivement et ça va trop vite pour moi, tant chaque point, chaque sujet est passionnant et mériterait bien plus que quelques minutes. Je voudrais revenir sur cette idée de ville accueillante. Pour moi, une ville accueillante, enfin le mot accueillant ou accueil, c'est vraiment pas seulement qu'une posture sur comment on accueille les migrants qui prend vite un virage à angle droit assez partisan politiquement. Le mot accueillant, en fait, ça devrait vouloir dire comment on apaise les tensions que la société fabrique ou auxquelles elle fait face, qui peuvent être climatiques, mais pas seulement. Et une ville qui accueille, c'est celle qui n'exacerbe pas les tensions qui sont là. Voilà. Donc c'est bien plus large que un sujet qui est beaucoup trop restreint, même s'il est important et il le sera plus à l'avenir sur les phénomènes migratoires qui sont tous choisis par les gens. Il faut juste commencer par dire ça. C'est souvent une façon de s'échapper à quelque chose, bien plus que, comme on nous l'explique, une façon de profiter de quelque chose. Voilà.
Alors, on aura d'autres sujets, bien entendu, réinventer ou réparer la ville. Alors, ça, c'est un sujet quand même assez intéressant, puisque à l'heure où on parle de réinventer Paris, réinventer la métropole, réinventer en permanence, on voit qu'on est en présence de désertification de centre-ville, l'étalement urbain se continue, on est face à la complexité des déplacements, avec des sujets comme la ville du quart d'heure, ou des choses comme ça qui sont sujets à débat. Donc tout ça, c'est savoir si est-ce qu'il faut vraiment réinventer une ville ou juste réparer celle qu'il y a aujourd'hui. Ça, c'est un sujet qui a déjà animé pas mal d'architectes les années précédentes, et je pense que le débat n'est pas clos. David Trottin,
c'est les deux thèmes, on va dire réinventer, réparer, c'est peut-être une manière de vouloir problématiser le sujet, mais la ville, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui s'adapte, c'est quelque chose qui en permanence depuis longtemps maintenant, ça a évolué. Et je pense qu'on est plus dans une notion d'évolution que dans d'un côté une réinvention ou simplement une réparation. C'est deux manières de voir un peu trop réduites, à mon avis, le sujet. On est dans un organisme vivant et c'est ça qui est passionnant. C'est que la ville, quand on est dans des villes anciennes, on s'aperçoit qu'il y a une manière de réadapter, à la fois de réparer et en même temps des fois de réinventer, parce que il suffit de changer un usage, de changer quelque chose ou d'avoir une pensée différente pour que la ville réagisse différemment. Je pense que tout ça participe à une réalité, on va dire, du besoin qu'a la ville. Après, il y a un côté très marketing quand on prend des termes comme ça aussi forts. Ça permet de parler de la ville du quart d'heure. C'est quelque chose qu'on arrive à avoir de manière mémotechnique, qui peut devenir simplement, pour nous, c'est un peu une banalité, parce que c'est effectivement les bonnes villes, c'est souvent des villes où on peut se déplacer rapidement. Et voilà. Mais par contre, ça permet tout d'un coup d'éclairer différemment, de donner un. Et pour des acteurs qui ont parfois besoin d'un pitch. Très simple, ça fait des pitchs. Voilà, je pense que ça revient un peu sur la notion de médias et comment on parle de l'architecture. L'architecture a des fois besoin de résumer les choses, de donner des éléments de langage à des gens qui vont être des acteurs pour être porteurs de ces idées. Et c'est pour ça qu'on peut, je trouve, de moins en moins séparer la pensée de l'architecture de la manière de la conceptualiser pour donner des éléments qui vont permettre à d'autres de s'en emparer. Il y a d'un côté les spécialistes, de l'autre côté ceux qui vont être des acteurs. Et voilà, il faut que les deux travaillent ensemble et parfois les éléments
de langage...
Et on va les inviter les deux pour avoir leur de vue.
Et après, on a d'autres sujets. Évidemment, on fera pas l'impasse sur l'environnement, sur l'écologie, donc la biodiversité en ville. On va faire un peu une enquête sur l'empreinte environnementale de l'architecture à plusieurs reprises. Hein. Donc la biodiversité s'est effondrée partout dans le monde et en particulier en ville. Les oiseaux ont disparu à plus de 70%. Des espèces d'insectes s'éteignent et on le voit pas. Pourtant, avec l'arrêt des pesticides, la nature a colonisé nos espaces publics. Dans les interstices, dans les friches, les entre-deux. Alors, le bâtiment a un rôle décisif à jouer. Alors, comment faire avec la nature, en prendre soin? Comment repenser le développement urbain en tenant compte de toute la vie qu'elle accueille? Donc ça sera aussi un sujet d'émission. On va pas s'éterniser parce que on pourrait en parler pendant des heures, des heures, des heures. Mais en tout cas, on voit qu'on a beaucoup de sujets. On a des thématiques intéressantes, des débats, des sujets qui nécessitent un approfondissement et tous les invités qu'on propose, je pense que seront intéressants à écouter. Alors, je vous rappelle que vous pouvez nous proposer des sujets, bien entendu, on est tout à fait ouvert à enrichir notre réflexion. On a la page Facebook et une adresse mail qui sera donc... alors, l'adresse mail, je ne sais plus quelle adresse c'est je crois que c'est ça, prisme@batiradio.com. Voilà. Et puis, vous pouvez nous envoyer un peu toutes vos propositions. Moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour cette première émission sur le logement avec deux invités un peu bien placés dans leur domaine qui vont débattre, qui ne seront pas forcément d'accord. Ça sera un sujet intéressant. Et je pense que tout au long de l'année, une fois par mois, on aura le temps d'inviter et de débattre sur des sujets d'architecture tels qu'on a élaborés aujourd'hui. Merci à tous. Et puis, bonne écoute et à la semaine prochaine.
Prisme, l'émission d'architecture qui fait société sur Bâti Radio.